Thierry Saurin, vous exposez à la VRAC de Millau jusqu'au 23 septembre une installation intitulée Cheesy Race. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, décrire cette installation ?
Alors, c'est une installation qui porte un nom précis, c'est un théâtre optique. Donc les théâtres optiques, ce sont des dispositifs qui permettent de faire apparaître, par exemple, des personnages en hologramme, au milieu, enfin, dans un décor, en général miniature, qui lui est bien réel, bien tangible, qu'on pourrait toucher si on y avait accès, quoi. Donc c'est une association entre, on va dire, du virtuel et du réel. Et on peut créer même des interactions entre l'hologramme et les éléments du décor. En l'occurrence, on a une platine disque sur laquelle va tourner a priori une grosse tranche de Roquefort, mais peut-être une Flaune, selon les essais qui vont être réalisés. Et on a cet élément qui tourne. Alors disons que ce sera une tranche de Roquefort. Cette tranche de Roquefort qui tourne, et sur ce Roquefort qui tourne, on a un personnage qui n'arrête pas de courir comme s'il était sur une sorte de tapis ou de tapis de course, en quelque sorte. Et donc il court sur ce fromage qui lui va peut-être se mettre à dépérir au fil du temps, alors que le personnage, lui, va continuer indéfiniment sa course sur un monde qui se dégrade sous lui, quoi.
Le théâtre optique, c'est en quelque sorte une réinterprétation ou une modernisation du praxinoscope. Est-ce que le praxinoscope, c'est quelque chose que vous connaissiez avant de réaliser des théâtres optiques ?
En fait, j'ai eu l'occasion, en 1995, donc ça date déjà un peu, de monter une exposition du côté de Toulouse, dans une galerie d'art qui avait la particularité d'avoir une grande vitrine qui donnait sur la rue. J'étais en train d'installer un téléviseur à l'intérieur de la galerie sur lequel il y avait un portrait de moi sur fond noir. Et tout d'un coup, en regardant en direction de la rue, moi j'étais derrière la vitrine, dans la galerie, en regardant vers la rue, j'ai vu mon visage qui flottait dans l'espace, dans la rue, par jeu de reflets. C'est quelque chose qu'on peut observer tous les jours quand on est dans un café, que si on allume sa cigarette avec un briquet, ou on va voir la flamme du briquet apparaître dans la rue. Donc en constatant ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de créer des espèces d'hologrammes. Et donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai réussi à obtenir un résultat assez probant. J'ai cru donc ce jour-là inventer un système dont je ne connaissais pas le nom. Et puis un an plus tard, en lisant un livre sur la magie des images, j'ai découvert que au XIXe siècle, un certain Pepper avait inventé un système s'est appelé le Pepper Ghost, qui permettait de faire apparaître comme ça des fantômes sur scène et qui reposait sur le même principe. Et puis ensuite, un certain Émile Reynaud, pionnier du cinéma, enfin un homme qui faisait du cinéma avant même que le cinéma soit inventé, a développé aussi un objet qui était presque un jeu, qui s'appelait le praxinoscope théâtre, qui reposait aussi sur ce système de reflets. Il faisait apparaître des petits personnages dans des petits décors. Et donc, je ne suis pas héritier de ça, puisque je l'ai inventé de mon côté, mais je suis dans cette tradition de chercher à faire vivre des images autrement que simplement sur un écran, quoi.
Alors c'est ça qui est étonnant finalement, c'est qu'à une certaine distance temporelle, il y a une intuition comme ça qui va se retrouver, et qu'en fait vous interprétez avec les outils de votre époque.
Oui, effectivement, donc moi je réactualise un petit peu ces méthodes anciennes en utilisant la vidéo. J'aurais pu le faire avec un vieux projecteur de cinéma ancien peut-être, mais ça aurait été un peu compliqué, ça aurait été moins lumineux, peut-être l'image moins précise. Avec les technologies actuelles, et en particulier maintenant avec la HD et puis la 4K, on arrive à faire apparaître des petits personnages qui ont une précision d'images qui fait qu'ils sont presque réels. Et c'est ça qui est un peu magique, c'est que j'ai des collectionneurs qui m'ont acheté ce genre d'œuvre en me disant, bah, j'ai l'impression d'avoir un vrai petit monsieur chez moi, quoi. Et puis les technologies actuelles permettent aussi de gérer des interactions entre l'hologramme et des objets. Par exemple, je crée en ce moment toute une série de théâtres optiques dans le cadre d'un événement à Nantes qui s'appelle Le Voyage à Nantes. Parmi ces théâtres optiques, il y en a un, par exemple, où il y a un type qui court sur un tapis de course dans une salle de sport. Le type, c'est un hologramme, mais le tapis de course, c'est une miniature de tapis de course qui est réelle, qui est en volume et qui tourne et dont la vitesse est synchronisée sur la vitesse de l'hologramme. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'il est là. C'est l'interaction précise avec le décor qui fait aussi la magie de la chose, quoi.
Et en l'occurrence, Cheesy Race, c'est une création pour la vitrine ou est-ce que c'est la réinterprétation d'une œuvre déjà existante?
Bon, on va dire que c'est l'adaptation. J'avais réalisé en 1995 des personnages qui couraient sur des disques vinyles en train de tourner. Donc c'est assez marrant parce qu'en même temps, ça permet de jouer sur le son du disque qui tourne sur lui-même et qui est souvent un peu un disque rayé. Puis le personnage, il est un peu rayé lui aussi, puisqu'il n'arrête pas de répéter sa course toutes les minutes. Donc là, je l'ai adapté un petit peu à une réalité locale très, très, très stéréotypée, enfin, puisque j'ai été voir sur Wikipédia Millau. Bon, j'ai vu qu'il y avait le fromage, j'ai vu qu'il y avait la faune. Je me suis dit, mais c'est super, parce que le fromage, c'est rond, c'est un peu comme un disque. La faune, elle est ronde aussi. Donc, je vais mettre, à la place de mettre un disque sur mon tourne-disque, je vais mettre un morceau de fromage, une tranche comme ça, bien ronde, et puis le type va courir là-dessus, et du coup, ça donnera un effet comique, quoi, de courir sur un fromage. Il y a un côté très enfantin aussi, c'est un peu comme... Pas Gulliver, les Lilliputiens, oui, c'est l'inverse de Gulliver, pardon. Oui. Il y a ce côté, le monde lilliputien qui renvoie au monde des maisons de poupées, qui renvoie à l'enfance.
Effectivement, ce personnage, moi je l'avais repéré dans 22h13, ce titre est susceptible d'être modifié d'une minute à l'autre, et dans Invasion également, qui sont deux formes différentes, puisqu'il y en a une, c'était un spectacle, et l'autre, c'était une installation.
Oui, alors 22h13, c'est un spectacle théâtral qui se présente un peu aussi comme une performance visuelle parce que finalement, il n'y a pas vraiment de dialogue. On voit un personnage tout seul dans son atelier, un artiste dans son atelier qui invente des dispositifs visuels et il nous montre comment il les crée en direct sur scène. Et il y a beaucoup dans ce spectacle d'effets d'hologramme, entre autres. Invasion, c'était à Marseille il y a quelques années, c'était une exposition avec des théâtres optiques, des projections, des installations vidéo, quoi.
Ce personnage, il est dans la lignée de l'autofilmage que vous pratiquez depuis un petit moment. Mais alors, vous vous dites, l'autofilmage, c'est pas de l'autoportrait. Finalement, d'une certaine manière, c'est presque un archétype, ce personnage que vous présentez.
Oui, moi, je me filme... Bon, il se trouve, enfin, maintenant, je prends de l'âge un peu, mais enfin, en particulier quand j'avais une quarantaine d'années, je dirais que j'étais un personnage un peu comme Mr. Bean. C'est un personnage qui est pas super beau, il n'est pas super laid non plus. C'est un peu l'idée du personnage, quoi. Bon, c'est un peu idiot de dire ça parce que quelqu'un qui est très gros, c'est aussi bien un humain que quelqu'un qui est très maigre, mais. Bon, c'est un espèce de personnage moyen dans lequel, je dirais, un peu tout le monde pouvait se projeter assez facilement. Donc c'est pour ça que je me suis filmé moi-même, et puis aussi parce que c'est beaucoup plus pratique de se filmer soi-même, parce qu'on n'a pas de rendez-vous. Si on n'est pas prêt, ben, on n'a pas de problème, puisque il n'y a pas d'interdépendance avec quelqu'un. Donc moi, je travaille beaucoup l'image animée, mais non pas comme un réalisateur de cinéma qui travaille avec des comédiens, mais plutôt comme un artiste ou un peintre qui peindrait un peu quand il est prêt à peindre, quand il est réveillé.
Je crois qu'à propos de ce personnage, vous évoquiez aussi Jacques Tati et le personnage de Monsieur Hulot.
Oui, c'est vrai que des fois on me rapproche aussi de l'univers de Georges Méliès, parce qu'il y a ce côté créer des effets spéciaux avec de manière un peu bricolée. Bon, Méliès bricolait à l'époque parce que de toute façon il était un peu inventeur, donc il était bien obligé de bricoler. On me rapproche donc assez facilement de Méliès. C'est vrai qu'il y a une familiarité. Mais Méliès, je le connaissais pas quand j'ai commencé à faire des théâtres optiques. Je l'ai découvert très tardivement. Celui qui m'a le plus influencé, c'est plutôt Jacques Tati. Non pas par le côté effets spéciaux bricolage, mais par cette forme d'humour où on a tout le temps un personnage qui est confronté dans la banalité du quotidien, à des petites difficultés à exister dans le monde qui l'entoure, et qui sont finalement des difficultés. Un peu, c'est un peu un exemple philosophique de la difficulté de l'individu à vivre dans le monde, même si on a été créé de manière assez bien adaptée finalement au monde qui nous entoure, mais on est quand même tout le temps en butte à des difficultés. On s'enrhume, avec cause de la gravité, si on glisse sur une peau de banane, ben on tombe, on peut se faire mal. On est finalement très imparfait. Et c'est l'imperfection humaine qui m'intéresse, parce que si on était parfait, ce serait pas, il se passerait rien d'autre que ce qu'on a prévu. Avec cette imperfection, ça nous amène tout le temps à des accidents, qui peuvent être assez créatifs en fin de compte.
Ce côté de l'absurde, de l'absurdité de la vie, qui est, bon, par exemple, Camus a énormément travaillé là-dessus. Alors, ça peut conduire au désespoir, ça peut conduire aussi à l'autodérision, à l'humour. C'est ce chemin-là que vous avez choisi.
Oui, vous citez Albert Camus, je ne sais pas si. Enfin, c'est pas par hasard, forcément, évidemment. Effectivement, moi, ça a été une rencontre. C'était un des premiers livres que j'ai lu dans ma vie, un premier livre, disons, pour adultes, que j'ai dû lire vers 15 ans. Et bon, ça m'a plu. Et puis, du coup, j'ai creusé un peu. J'ai essayé de voir ce que c'était que l'existentialisme selon Camus. J'ai lu le mythe de Sisyphe, des choses comme ça. Et ça m'a beaucoup aidé de lire ça, parce que j'étais un peu désespéré quand même, parce que je me disais, bon, on ne peut pas atteindre la vérité, enfin, à moins de dire, voilà, c'est la vérité, c'est Dieu, point. Mais si on ne part pas sur ce principe-là, on est un peu dans le flou, si on veut déterminer une vérité. Et j'ai eu l'impression que Camus me disait, bah oui, effectivement, on est dans l'impasse, on ne peut pas trop connaître la vérité, et du coup, la vie n'a pas de sens, et elle est absurde. Mais c'est cette absence de sens et cette absurdité qui finalement nous rend libre d'inventer des choses selon notre gré, selon nos envies. Et Camus m'a réconcilié avec l'existence. Et donc mon travail est traversé par cette idée d'absurdité, mais qui aboutit tout le temps à des choses assez créatives. On trouve sur Internet, je crois, une petite série que j'avais faite pour la télévision qui s'appelait Pierrick et Jean-Loup, où ces deux personnages, ils sont pas vraiment ils sont désœuvrés, au fond, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de valeurs qui les portent, et donc ils font des trucs comme ça pour s'occuper, mais finalement, à chaque fois qu'ils font un truc idiot, ils inventent quelque chose. Donc il y a tout le temps un message positif, c'est-à-dire qu'on peut être dans le désœuvrement, mais on peut quand même tout le temps inventer des choses qui vont créer une forme de plaisir et de poésie.
J'aimerais qu'on remonte à une œuvre plus ancienne encore. Donc qui date de 1988. Je m'en vais chercher mon linge. Donc là, on est dans l'autofilmage. C'est un playback en fait que vous réalisez sur une bande que vous avez enregistrée enfant. Alors vous parliez de l'enfance tout à l'heure, et je trouve que dans cette pièce-là, il y a à la fois toute l'insouciance de l'enfance, mais en même temps tout le sérieux de l'enfance, voire quelque chose qui va vers le dramatique.
Oui, alors, donc ça, c'est une petite chanson dont j'ai eu l'idée. En fait, quand j'avais 4 ans, mon père m'avait enregistré en train d'improviser une chansonnette avec un espèce d'instrument qui s'appelle une balalaïka. Et puis j'ai retrouvé à 28 ans cette bande magnétique, et je me suis rendu compte que la chanson, finalement, était pas si mal que ça, parce qu'elle avait un côté surréaliste. Elle avait une relative qualité littéraire. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est bon. Et je me suis dit, bah, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Bah oui, bah, je vais faire un playback avec mon visage d'adulte, enfin de jeune adulte de 28 ans, sur cette voix d'enfant. Et simplement, ça m'a amusé de confronter la voix d'un enfant, de moi-même à 4 ans, avec mon visage de 28 ans. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, sans le vouloir vraiment, il y avait une certaine gravité là-dedans, puisque c'est comme si cet adulte qui chante portait en lui l'enfant mort qu'il a été, et d'un coup ça nous renvoyait forcément à l'idée de notre vie qui se transforme, qui disparaît, qui... Donc c'était un peu plus profond que simplement le fait de faire un playback avec une petite voix d'enfant.
Je me demandais si justement dans cette pièce il y avait un amorçage de votre travail postérieur, voire du travail actuel, ou si c'était un début intuitif.
C'était quelque chose de très intuitif, mais je crois que le début de mon... À l'origine, en fait, moi je suis fils unique, et c'est ce qui m'a poussé très jeune, vu que je ne m'exprimais pas avec un frère ou une sœur, ça m'a poussé très jeune à faire des dessins, à faire en particulier des petites bandes dessinées, qui étaient assez mal faites. Et ces bandes dessinées, déjà à l'âge de 10-11 ans, elles étaient tout le temps traversées par cette notion d'absurde. Je mettais en scène des personnages qui étaient absolument horrifiés parce qu'ils avaient fait tomber une chaussette par terre et ils trouvaient que c'était dramatique. Je sais d'où me vient ce sens de l'absurde, je sais pas exactement. C'est peut-être parce que mes parents m'emmenaient peut-être voir des pièces. Une des premières pièces de théâtre qui m'ont emmené voir, c'était Ubu Roi d'Alfred Jarry. Je me souviens même plus vraiment trop de quoi ça parle, mais enfin, en tout cas, ça m'a incité à aller vers une certaine dérision, un espèce d'humour philosophique.
Est-ce qu'on peut parler de la série des réveils qui vient après ça?
Oui, alors, il y a un petit film qui m'a beaucoup lancé en termes de carrière, entre guillemets. C'est un film qui s'appelle Les Réveils, où pendant environ un mois, je m'étais filmé tous les matins en train de me réveiller réellement, et où je déclarais tous les matins face à la caméra que le soir même, j'allais me coucher plus tôt, vu que je me réveillais vraiment très fatigué le matin. Donc j'ai fait une série comme ça où on voit un type se réveiller tous les jours, et tous les jours il promet qu'il va se coucher plus tôt, et on sent bien qu'en fait il ne le fait jamais, et parce que je trouve qu'il y a chez l'humain comme ça une propension, enfin à se promettre des choses. Alors, il y a des gens qui disent bon, demain j'arrête de fumer, et puis qu'ils le font, à 80% des gens ont beaucoup de mal à mettre en application leur bonne résolution. Et c'est cette fragilité de l'humain, son incapacité à se comporter comme quelqu'un de fort, que ce soit un homme, une femme, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ça interroge la question de mais qui est-on, est-ce qu'on est libre, est-ce que ça, on peut beaucoup réfléchir à tout ça, quoi.
On a parlé de l'autofilmage, du théâtre optique. Vous avez dit que par rapport au cinéma traditionnel, c'est quelque chose qui ne vous intéressait pas tellement, dans la mesure où ça faisait intervenir des personnages extérieurs. Et pourtant, vous êtes passé à la mise en scène, à la scénographie d'opéra. Donc comment est-ce qu'on passe justement du théâtre optique, enfin de ce type de dispositif, à la scène, voire au grand plateau de l'opéra? Est-ce que c'est juste un agrandissement, ou est-ce qu'il se passe autre chose à ce moment-là?
Alors c'est vrai que j'ai été amené, il y a une dizaine d'années à peu près, à travailler sur des mises en scène et des scénographies d'opéra. C'est quelque chose, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, j'ai réalisé à une époque pour les Galeries Lafayette de Paris une série de théâtre optique visible dans les vitrines. Le directeur artistique des Galeries Lafayette est devenu directeur d'un opéra, c'est monsieur Jean-Luc Choplin. Et il s'est souvenu de mes petites mises en scène miniatures, et il m'a dit bon, maintenant que j'ai entre les mains un opéra, je vous propose de devenir metteur en scène d'opéra. Moi, je lui ai dit écoutez, avec plaisir, mais j'ai jamais été voir un opéra de ma vie, j'y connais rien du tout. Il m'a dit mais si, essayez. Et effectivement, j'ai fait presque comme si c'était juste un agrandissement de ce que je faisais en petit. J'ai même considéré les chanteurs non pas comme des chanteurs d'opéra, mais finalement comme des petites marionnettes que j'allais manipuler dans des décors miniatures. Et puis les chanteurs se sont prêtés au jeu parce qu'ils ont senti qu'il y avait là quelque chose de créatif. Et effectivement, ça a été quasiment qu'un agrandissement de ce que je faisais en petit. Après, par contre, ben, y a toute une dimension humaine, de relations, qui fait que c'est très différent dans la manière de travailler. Mais finalement, le résultat, c'est un peu la même chose, hein. C'est juste un agrandissement de ce que je faisais en petit, quelque part. Ouais.
Il y a quelque chose qui est assez... Alors, la Pietra de Paragon, c'est le premier que vous avez mis en scène.
Ouais.
Et alors, je trouvais qu'il y a quelque chose d'assez fantastique là-dedans, parce que, bon, évidemment, c'est une mise en scène modernisée d'un classique, de Rossini en l'occurrence, mais avec votre travail, vous arrivez à faire quelque chose qui, intellectuellement, est exigeant, qui s'inscrit complètement dans un mouvement contemporain de l'art, et qui, pour le coup, là, est carrément populaire, quoi.
J'ai dit une bêtise, parce qu'en fait, j'ai dit que quand je faisais une mise en scène d'opéra, c'était qu'un agrandissement de ce que je faisais en petit. C'est quand même pas vrai, parce que dans le cadre d'un opéra, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans mes petites installations, c'est l'interaction entre des vraies personnes qui sont vraiment sur scène et les images qu'on crée en direct avec eux. Et c'est ce jeu d'interaction qui apporte aussi quelque chose qu'il n'y a pas dans les petites boîtes. Enfin, dans ce que je fais en petit. Et donc, voilà, c'est pas mieux ni moins bien, mais il y a une autre dimension dans l'interaction réelle, quoi. Alors, effectivement, on a assez souvent des artistes contemporains qui font des choses, bon, qui sont certainement très intéressantes, mais qui sont un peu dures d'accès pour un public non initié. A contrario, on a, je sais pas, des humoristes qui vont faire des choses très populaires, mais où la dimension artistique et philosophique est des fois un petit peu... Bah, c'est un niveau peut-être un petit peu bas. Et puis il y a des gens, alors c'est très prétentieux, mais qui arrivent un petit peu de manière spontanée et sincère, sans que ce soit un calcul, à être dans un entre-deux, entre un côté intellectuel, contemporain et populaire quand même. Bon, je pense, enfin, Jacques Tati, c'est un exemple. On peut le prendre au premier degré. Le mec, il se cogne contre une vitre, ah ah ah, c'est rigolo. Mais on peut le prendre à un autre degré, se dire, tiens, ah oui, il se tape contre une vitre parce qu'il n'a pas vu la vitre, parce que la vitre, c'est le geste d'un architecte contemporain, et que finalement, est-ce que l'architecture contemporaine est-elle bien adaptée à l'individu? Donc oui, il y a des cas comme Jacques Tati, même dans les arts plastiques aussi. Il y a des œuvres comme ça, des fois, qui touchent vraiment un public très large et qui, en même temps, sont très exigeantes intellectuellement. C'est vrai que c'est pas forcément si courant que ça. Et moi, je suis content d'être un petit peu arrivé dans cet équilibre. Même si, bon, des fois, ce que je présente là à Millau, voilà, faut être honnête, on est plus dans l'amusement. C'est plus une pièce, pour moi, populaire que... Le côté intellectuel est un petit peu... je le développe après, mais je voulais surtout m'amuser à montrer un type qui court sur un fromage, quoi.
Je me demandais si, finalement, par rapport à l'opéra, si une forme très classique, en l'occurrence la Pietra de Paragon, n'était pas plus adaptée à ce type de mise en scène, de scénographie, que finalement quelque chose... Je pense à Popea. Donc qui est une réinterprétation pop-rock de Monteverdi. Je trouve que cet opéra rock donc, a un cadre qui est plus rigide finalement que le classique au sens strict du terme. Et que pour le coup, c'est peut-être plus difficile d'entrer dans une forme qui, d'une certaine manière, est plus contrainte au départ.
Oui, c'est vrai que a priori, je serais plus... tenter de travailler sur des formes d'opéra contemporaine avec du rock, etc. Mais l'opéra plus classique se prête peut-être mieux parce que ça permet plus de jouer en contraste entre la forme classique de base de l'œuvre opératique et ma proposition qui vont venir un peu se contredire mais se marier de manière peut-être plus intéressante que si je partais sur une base déjà plus contemporaine, plus Et je sais que même le prochain opéra qu'on vient de me proposer, je suis très content parce que ça faisait 2 ans que je n'en avais pas fait et ça me manquait. C'est un opéra auquel je ne comprends rien parce qu'on m'a envoyé le livret en italien, je ne comprends rien. Mais on m'a expliqué que c'était un opéra extrêmement dramatique. Et donc là, c'est une expérience intéressante de voir comment moi, qui n'arrive pas à contourner l'humour, enfin, je veux dire, même si j'essaye de ne pas être humoristique, je le suis forcément. Donc qu'est-ce que ça va donner de travailler sur un opéra dramatique avec mon ton humoristique et l'aspect magique du travail? Je sais pas, mais ça va sûrement être intéressant.
Bon, on a évoqué justement des projets futurs, des choses qui sont en cours. Au-delà des projets, alors on peut parler des projets évidemment, mais c'est quoi les envies de Pierrick Sorin, là maintenant, en juin 2019?
En fait, depuis très 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 longtemps, j'ai rêvé de faire peut-être un vrai long métrage, je dirais classique, sans effet autre qu'une projection dans une salle de cinéma. J'ai eu des propositions régulièrement, j'ai tout le temps repoussé, repoussé, parce que j'étais occupé à d'autres choses. Mais c'est une chose que j'aimerais faire, mais que je vais peut-être jamais. Le temps se réduit là, au niveau de ma vie. Donc je le ferai peut-être jamais, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et puis j'aimerais aussi développer un travail autour de la 3D relief, enfin du cinéma 3D relief, parce que le cinéma 3D relief qu'on voit dans les salles est souvent. C'est plus un argument commercial, la 3D relief, mais les films ne sont pas pensés vraiment pour cette technologie qui est quand même très intéressante. Et j'aimerais faire des œuvres qui soient fondées sur cette technique, mais qui soient vraiment adaptées. Oui. Alors j'ai fait un truc il y a quelques années à Rennes, justement, où j'étais très content parce que à un moment donné, il y a une dame qui regardait avec sa petite fille, et puis la dame rigolait, elle disait oh, qu'est-ce que c'est bien et tout. Puis la petite fille lui dit bah, d'habitude, t'as horreur des films en relief. Et puis la dame disait ah oui, mais là, c'est pas pareil. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire, quoi.